France Musique.
Bonsoir à tous, c'est un musicien rare que nous fêtons ce soir, le compositeur italien Niccolo Castiglioni, qui fait l'objet d'un passionnant ouvrage sous forme d'essais et d'entretiens, publié récemment sous la direction d'Angelo Orcalli et de Laurent Fenerou, sous le titre « Niccolo Castiglioni, un musicien en hiver ». Dans le monde de Castiglioni, on navigue entre la tentation du refuge naturel et le vagabondage dans les sentiers de l'enfance, entre l'épure webernienne et le silence habité des mystiques. L'œuvre de Castiglioni est peu jouée depuis sa disparition en 1996, mais on trouve dans les archives de la radio quelques enregistrements qui témoignent de l'intérêt qu'elle a suscité en France. Et ce sont quelques-uns de ces témoignages que je vous propose ce soir en compagnie de Laurent Fenerou. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Arnaud.
On va dire deux mots de la manière dont est constitué cet ouvrage, Laurent Fenerou. Essais et entretiens, ça veut dire qu'il y a deux périodes ou deux périodes dans le livre?
Il y a deux périodes. C'est un livre que nous avons conçu, Angelo Orcalli et moi-même, en ouvrant le livre par trois hommages. Celui de Stefano Gervasoni, qui a été l'élève de Castiglioni à Milan et qui retrace des moments d'échange avec Castiglioni. Un essai que j'ai consacré à la naïveté, au caractère rêveur, fantasque, enfantin, comme vous l'avez rappelé, de Castiglioni. Un essai d'Angelo Orcalli, davantage axé sur le langage musical. Et puis après, les essais de Castiglioni, qui très étrangement ont tous paru avant ses 29 ans. Il a écrit l'essentiel de son œuvre théorique très jeune. C'est une œuvre théorique qui part à la fois dans le champ musical, bien sûr, mais aussi dans la littérature, dans la philosophie, dans la théorie de la musique, et qui est destinée à des revues très différentes, soit musicales, soit philosophiques, avec des styles propres à chacun de ses essais. Et puis, très étonnamment, il arrête d'écrire des essais de ce genre et il ne se consacre presque plus qu'exclusivement à des entretiens à la fin de sa vie. Et un certain nombre de ces entretiens ont connu des publications posthumes.
Alors on va tout de suite entendre la musique de la première période de Castiglioni, précisément celle qui coïncide avec son travail d'essayiste. Ça s'appelle « Après-lude ». C'est une œuvre pour orchestre enregistrée par l'orchestre de la RAI de Turin sous la direction d'Emmanuel Krivine.
Thank you.
Prélude de Niccolò Castiglioni par l'orchestre de la RAI de Turin sous la direction d'Emmanuel Krivine en novembre 1988. C'était diffusé à l'époque en direct sur France Musique dans le cadre d'une journée exceptionnelle réalisée à Turin. Mais c'est une partition plus ancienne qui date de 1959, donc de la première période de Niccolò Castiglioni, Laurent Fénéroux.
Oui, c'est une trajectoire qui commence très vite, puisqu'il, son opus 1 date de 1952, il a 20 ans, et en l'espace de 7 ans, les choses bougent considérablement. Le point de départ de l'œuvre de Castiglioni, c'est le néoclassicisme et l'œuvre d'Igor Stravinsky, puis très vite, il apprend le sérialisme en étudiant en particulier les partitions de Luigi Della Piccola, dont il goûte la dimension méditerranéenne, qu'il oppose à l'expressionnisme sombre de Schoenberg. Donc son modèle est clairement un modèle sériel italien. Et puis, très peu de temps après, il teinte sa musique d'un engagement idéologique très fort, en essayant de mettre en musique Elio Vittorini. Et déjà, on perçoit dans sa musique les deux blocs qu'on a entendus dans la prélude, c'est-à-dire des mouvements presque de masse sonore.
Musique très timbrique.
Et musique très timbrique. Et puis, en même temps, des moments de stase et de suspension lyrique. Et à Prélude, donc nous sommes en 1959, sonne évidemment dans ce titre le Prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy, sonne aussi l'idée de loup douce, donc de jeu, qui est une dimension enfantine qui était chère à Castiglioni. Et ça évoque un texte de cette période dans lequel Castiglioni explique qu'avec Debussy, on est revenu au son. Et on a échappé d'une certaine manière aux proportions, et il prend l'exemple de Pythagore passant devant les forgerons. Ce ne sont plus les proportions de Pythagore qui importent, c'est le son du métal.
La même année, il écrit Troppi pour ensemble. Le titre est parlant aussi, Troppi.
Oui, il y a toujours une inscription historique forte dans la musique de Castiglioni. C'était un très grand connaisseur de l'histoire de la musique et en particulier de la musique du Moyen-Âge.
On le voit d'ailleurs dans le livre que vous avez publié.
Et je vois trois dimensions principales dans cette œuvre. D'une part, cette même attention au son, au timbre, la volonté de caractériser le son par des types d'articulations, des rythmes, des densités sonores, des gestes expressifs, une dimension mélodique parfois. Donc, non pas un sérialisme abstrait, abscon, mais vraiment très incarné dans le son. Je vois aussi une pensée du silence qui est déterminante dans l'œuvre de Castiglioni, avec un silence qui n'est jamais un vide, qui n'est jamais absolu, qui résonne de quantités de sons qui se sont produits ou qui vont se produire, ou des sons de l'histoire de la musique, et puis enfin une attention à l'harmonie. C'est un musicien qui travaille sa série par accord.
On écoute Troppi par l'ensemble Divertimento sous la direction de Sandro Gorli. C'est un concert enregistré en février 1981. Troppi de Niccolò Castiglioni. Thank you. Troppi de Niccolò Castiglioni, donné en concert en février 1981 par l'ensemble Divertimento, dirigé par Sandro Gorli et à l'époque diffusé sur France Culture. Laurent Fénéroux, ce qu'on entendait ici, c'est une musique raréfiée mais jamais dans la sécheresse.
Non, il y a un sens du lyrisme, le mot italien est celui de cantabilità, de dimension chantante qui est déterminante dans l'œuvre de Castiglioni. Oui.
On est en 1959, dans les années 1960-1970, l'œuvre de Castiglioni va beaucoup évoluer.
Oui, il y a deux faits marquants. Le premier, c'est qu'il part enseigner dans des universités américaines en 1966 et jusqu'en 1970. Donc, il enseigne à Ann Arbor, il enseigne à San Diego et à Washington. Et quand il revient, la configuration du milieu musical a complètement changé, d'une part. Et d'autre part, politiquement, évidemment, mai 68 est passé par là, les crises estudiantines à travers l'Europe. Ça l'isole, d'une certaine manière, du monde musical italien. Et le deuxième isolement provient d'une crise personnelle, dépressive, au début des années 1970, à la suite d'un deuil, et pendant plusieurs années, il ne compose pratiquement plus rien.
Mmh. On va écouter Così parlò Baldassare. Qu'est-ce que ça veut dire, ce texte?
Alors, c'est un extrait de Baldassare Castiglione, dans Le Courtisan, livre du XVIe siècle, et le texte est
on
celui-ci.
On dit Castiglione, c'est un hasard.
Et voici une traduction du XVIe siècle du texte qui est chanté. « Et pour ce que par le baiser, l'on peut dénoter l'âme se séparer des choses sensibles et totalement s'unir aux intelligibles, Salomon dit en son livre des Cantiques, « Je désire que mon mari me baise du baiser de sa bouche pour démontrer avoir désir que son âme soit ravie, pour l'amour divin, à la contemplation de la beauté céleste, en telle façon qu'en s'unissant intrinsèquement à elle, elle abandonne le corps. » Bon, c'est un texte incandescent sur le désir de Dieu à travers le désir amoureux. C'est un poème que Castiglioni pensait parfaitement adapté à la mise en musique. C'est une œuvre pour voix seule et en même temps, il y a une pluralité stylistique incroyable avec des cantilènes tonales qui interviennent. Et Castiglioni comparait cette œuvre à celle d'un écrivain qui écrit sur une même page de la prose et de la poésie dans différents styles et dans différentes langues.
On l'écoute par Liliana Poli, c'était au studio 106 ici à la maison de Radio France le 25 mai 1982. Così parlò Baldassare de Niccolò Castiglione. Così parlo Baldassare de Niccolò Castiglioni, donné en concert au studio 106 de cette maison de Radio France. C'était en mai 1982 par la soprano Liliana Poli. Vous écoutez France Musique, le concert du Carrefour de la Création. Le Carrefour de la Création, c'est chaque dimanche jusqu'à minuit et demi. Nous évoquons ce soir ce musicien méconnu, en tout cas en France aujourd'hui, Niccolò Castiglioni, à l'occasion de la parution du livre Un musicien en hiver. Ce sont des essais et entretiens de Castiglioni recueillis et présentés sous la direction de Angelo Arcalli et Laurent Fenerou, qui est notre invité ce soir. Vous avez rencontré l'art, la musique et l'œuvre de Castiglioni au cours d'un concert. C'était en 1994, il était encore vivant, Castiglioni, Laurent Fenerou.
Il était encore vivant, c'était un concert du Festival d'automne au cours duquel a été donnée l'une de ses œuvres majeures de la dernière période, qui est Cantus Planus, en deux parties.
Cantus Planus, c'est sur un texte de Johannes Schaefer qu'on connaît mieux sous le pseudonyme de Angelus Silesius. C'est un poète mystique du XVIIe siècle. Ça recouvre certaines préoccupations de Castiglioni.
Oui, des préoccupations mystiques, des préoccupations religieuses, puisque Castiglioni était un compositeur très marqué par le catholicisme. Cette poésie est une poésie en distique que Castiglioni présente sous forme de quatrain au début de la partition, et qu'il écrit de sa main très enfantine, comme s'il fallait retrouver un esprit d'enfant pour pouvoir atteindre les plus hauts sommets de la contemplation mystique.
Un Cantus Planus, c'est du plein chant, est-ce qu'on peut dire ça, du plein chant contemporain, du plein chant du XXIe siècle?
Oui, c'est une œuvre à la fois très simple, qui vise la simplicité, qui se revendique d'une certaine simplicité, d'une pureté, d'une transparence. Castiglioni était un compositeur marqué par le gel, la glace, la neige, donc quelque chose d'immaculé, de vraiment dans la plus grande pureté. Et c'est en même temps une œuvre pour deux sopranos, où chacune des voix contribue à une dimension harmonique de l'intervalle. Mmh. Il y a un nouement des deux voix qui est extraordinairement lyrique dans cette pièce.
Il revendique beaucoup la filiation avec Webern, mais peut-être ce mouvement des sopranos le distingue de Webern, non ?
Oui, et puis il y a toute la dimension spirituelle qui est une dimension distincte de la pensée de Webern. Ce sont des textes quand même qui parlent de la présence de Dieu dans toute la nature, y compris dans ses dimensions les plus infimes. Ce sont des textes qui parlent du fait que cette nature est sans pourquoi. C'est le fameux texte d'Angelus Silesius, la rose est sans pourquoi. Ce sont des textes qui parlent aussi de l'union à Dieu et d'une union qui n'est... Enfin, c'est cette distinction qu'a fait la mystique allemande entre être uni à Dieu ou être un avec Dieu. Si on est uni à Dieu, c'est que Dieu est extérieur. Si on est un avec Dieu, c'est qu'on participe de cette nature spirituelle et divine.
On écoute ce Cantus Planus en deux parties sur des textes d'Angelo Silesius. C'est une pièce pour soprano, mezzo-soprano, flûte, clarinette, violon, violoncelle, piano, harpe et percussion. La voix de mezzo est celle de Catherine Sierzinski. La soprano est Susan Roberts. Et c'est l'ensemble contre-chant dirigé par Emilio Pomarico. Cantus Planus de Niccolo Castiglioni.
Thank you.
Cantus Planus 1 et 2 sur les textes d'Angelo Silesius et de Niccolo Castiglioni par Catherine Sizinski, Suzanne Roberts et l'ensemble contre-chant dirigé par Emilio Pomarico le 18 octobre 1994 à l'amphithéâtre de l'Opéra de Paris dans le cadre du Festival d'automne, concert diffusé à l'époque sur France Culture. Ainsi se referme ce concert d'archives autour de Niccolo Castiglioni. Merci beaucoup Laurent Fénérou de nous avoir rendu visite ce soir.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de ce livre, Niccolo Castiglioni, un musicien en hiver, essais et entretiens 1956-1996, sous la direction d'Angelo Orcali et Laurent Fénérou. C'est paru tout récemment chez Aida Musiquet.
À réécouter sur francemusique.fr.